France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, remonte le temps, la dépêche d'Ems. En juillet 1870, tandis que le pouvoir exercé par Napoléon III est stable et que le pays est respecté, d'étranges rumeurs prennent de l'ampleur. En vérité, l'empereur irait mal et il aurait été gravement offensé par son voisin, le roi de Prusse, Guillaume Ier. En quelques jours, c'est l'affolement. Journalistes, maréchaux, ministres, tous soutiennent l'idée de défier Guillaume Ier pour rétablir l'honneur de la France. Or, le problème ne vient pas du roi de Prusse. C'est dans son ombre que l'affaire se monte, et dans le plus grand secret. Aux commandes, le chancelier Otto von Bismarck. Son but, pousser la France à déclarer la guerre pour que l'Allemagne se lève, unie comme un seul homme sous son commandement. C'est donc un piège que Bismarck tend à la France, en caviardant une dépêche restée célèbre sous le nom de dépêche d'Ems, qu'aujourd'hui on qualifierait de fake news terrifiante. Parce qu'elle est à l'origine de la guerre de 1870, de la chute du Second Empire, de la perte de l'Alsace-Lorraine et d'un contentieux franco-allemand qui durera jusqu'en 1945, jamais une fake news n'aura eu de conséquences aussi tragiques. Notre invité aujourd'hui, Xavier Mauduit, producteur de l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture. Spécialiste du Second Empire, il a publié de nombreux ouvrages sur Napoléon III. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Judith Gou.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Château de Saint-Cloud, 20 juin 1870. On prédit que l'été sera suffocant. Mais pour l'instant, tout est calme. Sanglé dans son costume clair, l'empereur Napoléon III avance jusqu'à la terrasse de la lanterne qui surplombe Paris. Son regard scrute l'horizon et soudain le voilà pris de nostalgie. Cette résidence lui rappelle tant de souvenirs. C'est ici qu'il s'est fait proclamer empereur, le 7 novembre 1852, qu'il a reçu le tsar de Russie, l'empereur d'Autriche et même la reine Victoria pour l'expo universelle de 1855. Et puis tous ces bals, tous ces artistes, la belle époque avant l'heure. Extrait du journal des frères Goncourt en 1863.
21 janvier 1863. Flaubert est à côté de nous. Tous trois, nous formons un groupe d'originaux. Nous sommes à peu près les trois seuls non décorés de la Légion d'honneur. Je nous revois, tous les trois, si proches du gouvernement de cet homme qui est là. Napoléon III, l'empereur, assis là, que nous touchons presque du coude. Notre ami Flaubert est plus gonflé que jamais, car l'impératrice lui a parlé et lui a demandé le costume de Salammbô pour un prochain bal.
Que c'est triste de penser qu'il y a quelque temps encore, tous faisaient la fête, et qu'aujourd'hui Jules de Goncourt vient de mourir, et ça n'a pas de prix. Maudite syphilis. En vérité, l'empereur sait bien pourquoi cette disparition l'affecte. Parce que lui aussi va mal. Il sent même qu'il ne tiendra pas longtemps, que c'est une question de mois, de semaines peut-être. Le docteur Nélaton, son chirurgien ordinaire, on l'appelait comme ça à l'époque, a eu bien du mal à cacher sa gêne. Il l'a confié au docteur Guyon, puis au docteur Corvisart, oui celui de la station de métro à Paris, et enfin au docteur C, le meilleur des urologues, bien que farouchement républicain, l'un n'empêchant pas l'autre a priori, mais bon, tout est tellement politique. Et le diagnostic médical est sans appel. Il s'agit bien de la maladie de la pierre. Autrement dit, Napoléon III souffre d'un calcul gros comme le poing logé dans sa vessie. Alors quoi, opérer? À son âge, c'est risqué. Et diplomatiquement, le moment serait mal choisi. Alors, l'empereur des Français ferme les yeux et se figure la carte de l'Europe. À Berlin règne le roi Guillaume Ier. À Vienne et Budapest, l'empereur François-Joseph. À Londres, la reine Victoria. À Saint-Pétersbourg, le tsar Alexandre II. Mais à Madrid, personne. Le trône est vacant depuis 2 ans. Alors, qui pour reprendre sa couronne? Côté français, la question est brûlante, car le pays garde en tête ce qu'on nomme le spectre de Charles Quint, du nom de cet Habsbourg ultra-puissant du XVIe siècle, ennemi juré de François Ier. En vérité, la France a une peur bleue de se trouver à nouveau ceinturée par les Allemands, et elle a raison de se méfier. Car justement, il est un homme qui rêve d'un axe Madrid-Berlin. Il se nomme Otto von Bismarck, et c'est peu dire qu'il est redoutable. Ce Bismarck, dont le nom résonne comme du matériel de guerre, né en 1815, au moment où se dessinent les nouvelles frontières européennes. Sa famille, des Junkers, autrement dit des Prussiens très conservateurs. Dans leur viseur, les Habsbourg à Vienne. En vérité, cette rivalité entre Prussiens au nord et Autrichiens au sud est ancienne. Elle porte même un nom, on parle de dualisme allemand. Et c'est à ce dualisme que s'attaque Bismarck. Nommé chancelier en 1862, il déclare vouloir l'unité de l'Allemagne par le fer et par le sang. Voilà pourquoi, le 3 juillet 1866, ses troupes nordiques écrasent l'Autriche à Salva. Une sorte de blitzkrieg, comme en atteste la revue de presse de l'époque.
Journal Le Temps, 4 juillet 1866.
La grande bataille à laquelle on s'attendait s'est livrée hier près de Königsgrätz. Elle a duré moins de 8 heures. Le sort des armes a été fatal aux Autrichiens, qui ont été forcés de battre en retraite après avoir perdu beaucoup d'hommes et de canons. Forcé de constater que les Prussiens ont été largement vainqueurs.
Journal Le Constitutionnel, 4 juillet 1866.
Hier a eu lieu en Bohême le grand choc que l'Europe, attentive, craignait depuis plusieurs jours avec une anxiété fiévreuse. Et une fois encore, le sort des armes a tourné contre les Autrichiens.
Un coup de maître que cette bataille de Salova. Un vrai coup d'éclat même. Pensez donc, d'un coup, à la stupeur générale, l'Autriche est mise hors jeu. C'est donc avec crainte que désormais on regarde ce voisin prussien. Jusqu'où ira-t-il? Que cherche-t-il au juste? Ce qu'il cherche, tout simplement à unifier l'Allemagne à la manière de Garibaldi en Italie et à devenir la plus grande puissance de son temps. C'est ainsi que, dans la foulée de sa victoire, il contraint l'Autriche à signer un deal. En cas de conflit avec un pays extérieur à la Confédération germanique, elle sera obligée de combattre avec lui. L'Union, quoi. Qui en allemand se dit « Anschluss ». Tiens donc. Et quel serait ce conflit qui permettrait à la Prusse et à l'Autriche de combattre ensemble? En 1866, Bismarck ne le sait pas encore précisément. Non, il réfléchit. Sur son flanc est, la Grande-Russie, imprenable. Par-delà les mers, la Grande-Bretagne, pourquoi pas? Bien que, non, il y a mieux. Il y a là, sur le flanc ouest, la France, qui soudain a l'air si petite, si vulnérable. Alors, c'est avec gourmandise que Bismarck l'envisage. Mais, concrètement, comment faire? Quel prétexte trouver pour lever ses armées? Attaquer sans prévenir? Non, ça ne se fait pas. L'idéal serait de provoquer les Français, oui. Le comble du raffinement serait qu'ils se lancent eux-mêmes dans la guerre. Et tandis que Bismarck réfléchit, la France est sur ses gardes. Car elle est lucide, la France, et la rumeur a pris comme un feu de paille. Le roi de Prusse, Guillaume Ier, aurait l'idée de placer son cousin Léopold sur le trône d'Espagne. L'homme est éduqué, catholique, il parle déjà l'espagnol. Sur le papier, le CV est idéal. Mais c'est un épouvantail pour la France. D'autant qu'évidemment, l'idée ne vient pas du roi Guillaume, mais du trématois Bismarck. Du haut de son balcon de Saint-Cloud, Napoléon soupire. Il sait bien que son armée ne sera pas à la hauteur d'un conflit. Explication avec Francis Oeschger dans le magazine Géo.
Le maréchal Leboeuf, ministre de la guerre, a-t-il vraiment déclaré que pas un bouton de guêtre ne manquerait aux soldats français? La formule reflète bien l'état d'esprit de certains hommes politiques, de la presse et d'une partie de l'opinion publique. L'armée française, fière de ses victoires en Algérie, en Crimée et en Italie, passe pour la meilleure d'Europe. Seul ou presque, l'empereur ne partage pas cet optimisme. Il se méfie de la puissance de l'armée allemande. Sur le papier, l'armée française aligne moins de 300 000 soldats de métier, alors que la Prusse compte 500 000 hommes, auxquels s'ajoutent les 300 000 soldats des États du Sud. Côté armement, la France peut compter sur la supériorité du fusil Chassepot et de la mitrailleuse de Réfi. En revanche, le reste du matériel est dépassé et l'intendance mal préparée.
D'autant que la Prusse possède 2000 canons Krupp des plus modernes et qu'elle peut compter sur l'esprit de discipline qui fait sa réputation depuis le début du XVIIIe siècle. Cornaquée par le chef d'état-major Moltke, lui-même soumis à Bismarck, la Prusse est devenue invulnérable. Alors, comment dort Napoléon III cette nuit-là? Mal, sans doute. Sa vessie le fait souffrir, ses soucis aussi. Le lendemain, son pressentiment devient réel. Léopold de Hohenzollern brigue l'Espagne. Mais enfin, que veulent-ils ces Allemands? Une guerre? Immédiatement, la presse s'enflamme. Certains dessinateurs caricaturent Bismarck en Uhlan, le terrible cavalier slave. Tandis que d'autres, comme Daumier, l'imaginent en barbe bleue. En somme, chacun l'a compris. Ce vieux moustachu est un dangereux impérialiste. Voilà pourquoi le trône d'Espagne ne doit en aucun cas revenir à un Hohenzollern, pour que la France ne soit pas prise en tenaille et avalée tout cru. Reclus dans son château, Napoléon III se fait un sang d'encre. Il n'aurait jamais dû accepter que son règne prenne un tournant si libéral, parce que son gouvernement en profite. C'est tout d'abord Gramont, son ministre des Affaires étrangères, qui se permet de tenir un discours enflammé au Parlement. Et voilà que ses propos sont repris dans la presse. Puis c'est le journal Le Soir qui signe un édito intitulé « La guerre et les autres » qui l'imite.
Le Pays, 7 juillet 1870.
Cette affaire qui eût été sans importance il y a 10 ans est la goutte d'eau qui fait déborder notre calice plein d'amertume. Notre réponse est claire. Ou la Prusse se décide à retirer ses prétentions, ou alors elle devra se battre.
Le Gaulois, 7 juillet 1870.
S'il faut choisir, une fois encore, entre la patrie amoindrie, réduite et la guerre, nous n'hésiterons pas.
En vérité, la presse en profite pour ridiculiser l'Empire et donner de Napoléon III l'image d'un homme pathétique. Ce qu'il n'est pas, non. Simplement, il est malade et l'idée d'affronter Bismarck le remplit d'effroi. Et signé avec Bismarck. Il y a aussi sa femme, Eugénie, plus réactumeur. Il sait bien qu'elle complote avec Gramont contre lui. Qu'elle chuchote, qu'elle écarquille les yeux, qu'elle attend de lui une attitude virile. Comprendre qu'il parte au front et lui laisse la régence. Hélas, Eugénie n'a aucun sens politique, aucun discernement. Elle refuse d'admettre que les Allemands ont une meilleure armée. Quel orgueil! En outre, comment peut-elle imaginer l'empereur tenir sur un cheval alors qu'il souffre le martyr, sonné aussi par les opiacés que ses médecins lui administrent dans le plus grand secret? Non, vraiment rien ne va en ce début juillet. Décision est donc prise d'enjamber les va-t-en-guerre et de faire preuve de diplomatie. Le 9 juillet, Napoléon III envoie l'ambassadeur Benedetti calmer le jeu auprès de Guillaume Ier. Le souverain allemand connaît bien Benedetti, il a confiance en lui. D'autres assurent que ce dernier connaît bien Guillaume Ier. Bref, leur rapport serait même devenu intime. En outre, la chance semble leur sourire. Guillaume Ier est parti à Ems, une station thermale près de Koblenz. On l'imagine donc détendu et on l'espère enclin à calmer son terrible chancelier. Explication dans la revue Hérodote.
Le roi Guillaume Ier est un vrai gentleman. En ce début du mois de juillet 1870, il fait une cure à Ems, une ville d'eau proche de Koblenz. C'est lui qui va accueillir l'ambassadeur Benedetti avec la plus parfaite des courtoisies. Il l'écoute, puis discrètement tente de faire renoncer Léopold à sa candidature. Heureuse surprise, le 12 juillet, ce dernier retire sa candidature à la couronne. La modération de Guillaume Ier et de Napoléon III semble donc l'avoir emporté. Guillaume Ier envoie aussitôt son aide-de-camp en informer Benedetti et l'aide-de-camp de préciser « Sa Majesté considère l'affaire comme liquidée ».
Pour la France, cette reculade allemande est un vrai succès. Même l'ancien ministre, le très sévère Guizot, s'exclame « C'est la plus belle victoire diplomatique que j'ai vue de ma vie. Ces gens-là ont un bonheur insolent. » Un bonheur qui n'est pas du tout du goût de Bismarck, et évidemment. Désavoué par son roi, il songe un instant à démissionner, avant de se ressaisir. Et le voilà qui pense « Ces dindons de France et pavoise !» Mais gageons qu'ils ne tarderont pas à tomber dans le premier chausse-trappe que je saurai leur tendre.
Tu fourbis tes armes, tu fourbis ton sac. Sont silencieux. esprit. D'un geste, tu rallumes les dernières braises.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la dépêche d'Ems.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Tout de même, jusqu'où va l'orgueil des hommes d'État? Le 12 juillet 1870, tandis que la France savoure sa victoire diplomatique, le duc de Gramont fulmine. En tant que ministre des Affaires étrangères, il apprécie peu d'avoir été doublé par l'ambassadeur Benedetti. Alors, il exige mieux que des paroles rassurantes. Il veut des garanties, c'est-à-dire une trace écrite de Guillaume Ier. Une promesse qui assure que jamais dans l'avenir, un Hohenzollern ne prendra la couronne d'Espagne. Benedetti fronce les sourcils, enfin. Vous désirez que je dérange une nouvelle fois le roi et que je mette en doute sa parole? Mais enfin, on faiserait l'incident diplomatique. Mais Gramont insiste. Informé de sa requête, Napoléon III, lui, hésite. Qu'en pense le Boeuf, son ministre de la guerre? Eh bien, il confirme les dires de Gramont. Car une parole jetée dans une station thermale ne suffit pas. Mon Excellence, ressaisissez-vous, l'affaire est grave. Et peu à peu, Napoléon III se laisse convaincre. En fin de soirée, ordre est donné à Benedetti de retourner voir Guillaume Ier. Et comme prévu, l'empereur allemand s'étonne. Mais que veulent-ils encore, ces Français? Vous dites une trace écrite? C'est vexant. Il envoie donc une fin de non-recevoir à Benedetti via son aide de camp. Est-ce dû à son sentiment de solitude, à son caractère scrupuleux? Voilà que soudain, Guillaume Ier éprouve le besoin d'envoyer une petite dépêche à Bismarck. Oh, trois fois rien, juste un résumé de cette histoire étonnante qu'il griffonne rapidement. Erreur fatale, car Bismarck dîne ce soir-là avec son chef d'état-major von Moltke et son ministre de la guerre, Rohn, jusqu'à 18h. La dépêche arrive sur sa table, il s'en empare, la lit, marque un temps, puis sourit. Ça y est, il tient sa revanche. S'en suivent quelques minutes délicieuses, durant lesquelles il rédige un résumé de la dite dépêche, mais à sa manière, c'est-à-dire en la caviardant.
Ems, 13 juillet 1870. Après que les nouvelles de la renonciation du prince héritier de Hohenzollern eussent été communiquées au gouvernement impérial français par le gouvernement royal espagnol, l'ambassadeur de France a exigé encore de Sa Majesté à Ems l'autorisation de télégraphier à Paris que Sa Majesté le roi s'engageait pour tout l'avenir à ne plus jamais donner son autorisation si les Hohenzollern devaient à nouveau poser leur candidature. Là-dessus, Sa Majesté le roi a refusé de recevoir encore une fois l'ambassadeur et lui a fait dire, par l'aide de camp de service, que Sa Majesté n'avait plus rien à communiquer à l'ambassadeur.
Il est très fort, ce Bismarck, car finalement il ne modifie pas grand-chose. Et pourtant tout change. Alors, comment s'y prend-il ? Eh bien, simplement en condensant l'histoire, c'est-à-dire qu'il se focalise uniquement sur l'incident diplomatique en y ajoutant à trois reprises ces mots terribles. L'ambassadeur a encore exigé de Sa Majesté. Sa Majesté a refusé de le recevoir. Et l'ambassadeur lui a fait dire par l'aide de camp que c'est humiliant. Les Français sont représentés comme des lourdeaux et les Prussiens comme des dignitaires outrés. Et Bismarck précise dans ses mémoires.
Je lus à mes deux hôtes la rédaction qui condensait la dépêche. Moltke fit alors la remarque suivante. Voilà qui sonne tout autrement maintenant. Auparavant, on eût cru entendre battre la chamade, mais à présent, c'est comme une fanfare en réponse à une provocation. Je crus toutefois devoir leur expliquer ceci. Si je le communique aux journaux et le télégraphie à nos ambassades, il sera connu à Paris avant minuit. Il produira sur le taureau gaulois l'effet du drapeau rouge. Le succès dépend cependant de ceci. Il est essentiel que nous soyons les attaqués.
Et c'est peu dire que le taureau gaulois va réagir. Car c'est Bismarck, encore lui, qui contrôle l'agence continentale, sorte d'AFP local. En quelques heures, il arrose toutes les agences européennes. Puis, au lever du jour, feu vert est donné pour envoyer la dépêche caviardée dans les ambassades. Nous sommes le 14 juillet 1870, et plus rien ne sera comme avant. À Paris, la dépêche sonne comme un coup de tonnerre. Les manifestations sont fiévreuses. On lance au Rhin, on crie à Berlin, et soudain, voilà qu'on s'approche de l'Assemblée nationale. Là, on tourne à gauche, en direction de l'hôtel de Beauharnais, qui abrite l'ambassade de Prusse. On se regarde, on hésite, puis on se met à casser les vitres. Reclus dans son bureau, l'ambassadeur von Ferter en informe Bismarck, qui est son ami. « La situation dégénère », lui dit-il. Évidemment, Bismarck sourit et fait passer le message. Les ambassades s'affolent, ça y est, la guerre est sur toutes les lèvres. Mais ça ne suffit pas. Le chancelier continue de chauffer les foules. Il fait distribuer gratuitement des milliers d'exemplaires d'un numéro spécial du Deutsche Allgemeine Zeitung, son organe de presse. Et on y trouve quoi? Une caricature de Benedetti harcelant Guillaume Ier, bien sûr. Dans la foulée, les autres journaux berlinois s'y mettent. Le plan de Bismarck fonctionne à merveille. De part et d'autre, du Rhin, des foules entières lèvent le poing. Puis, à leur tour, les régions du Sud s'interrogent. Mais ont-elles le choix depuis leur défaite à Sadova? Reclus aux Tuileries, Napoléon III se sent défaillir. Tout ce qu'il redoutait se réalise. Et il aimerait tant calmer le jeu. Mais il se sent si faible. Il ne parvient même plus à se montrer en public. Ses journées sont rythmées par la prise de ses puissants sédatifs. Chloral, laudanum, tout y passe et rien n'y fait. Napoléon III somnole. Napoléon III grelotte. Sa cousine, la princesse Mathilde, s'interroge. C'est cet homme-là que vous voulez envoyer au front? Face à elle, Eugénie se renfrogne. Puis jette un regard inquiet au duc de Gramont, qui promet que tout va bien se passer. Il vient de consulter le maréchal MacMahon et le général Frossard. Ce dernier a fait des merveilles en Algérie, alors allons-y. La suite, c'est l'historien Nicolas Chaudin qui la raconte dans les colonnes du Point.
Le 15 juillet, le corps législatif discute fiévreusement des crédits militaires. Qu'une voix s'élève en faveur de la paix, qu'une autre réclame un supplément d'information, et l'hémicycle chavire aussitôt dans une colère de dindon.
Messieurs, messieurs, je vous en prie.
Cette rogne imbécile messieurs. Gagne la rue. Les manchettes du soir conchillent les fauteurs de paix, on réclame le peloton pour ses suppôts de la Prusse et les crédits sont votés dans la nuit. On braille, on pavoise, on raille les frites de la Landwehr présumés trop gras pour boucler leur ceinture. Partout, on entonne la Marseillaise, à l'opéra, comme dans les assommoirs. Puis Cassagnac sonne l'accord final en criant « C'est beau la guerre !» C'était l'ébullition fatale qu'escomptait Bismarck. Il avait vu juste. Ne manquait que ce chiffon rouge à brandir au mufle du taureau gaulois.
En effet, c'est peu dire qu'à l'Assemblée, qu'on appelait le corps législatif à l'époque, les choses tournent mal. Tandis que l'hémicycle chavire, dans une colère de dindon, l'orléaniste Adolphe Thiers, autrement dit partisan d'une monarchie constitutionnelle libérale, monte à la tribune. Les fièvres collectives, ils n'aiment pas ça du tout. Et ils refusent de lancer une guerre pour une broutille diplomatique. Il accuse donc le gouvernement de rompre sur une question de susceptibilité alors qu'il a obtenu satisfaction sur le fond. Extrait de son discours au Palais Bourbon.
Voulez-vous qu'on dise que pour une question de forme, vous vous êtes décidé à verser des torrents de sang? Je regarde cette guerre comme souverainement imprudente. Plus que personne, je désire la réparation de Sadowa, mais je trouve l'occasion détestablement choisie. L'histoire, la France. Le monde nous regarde, messieurs. De la résolution que nous allons prendre peut résulter la mort de milliers d'hommes et dépend peut-être la destinée de notre pays.
À de fêtières voix juste. Mais le marquis de Perret lui lance. Vous êtes la trompette antipatriotique du désastre. Et Thiers finit son discours sous les huées. Les huissiers doivent même intervenir pour le protéger. Puis vient le tour du républicain Gambetta, qui exige de voir les preuves du dossier afin de comprendre si le pays a vraiment été outragé. Hélas, la commission chargée d'examiner ces fameuses preuves a choisi de ne pas auditionner Benedetti. Étrange, lorsqu'on songe que ce dernier rappelait le matin même qu'il n'y avait eu ni insulteur ni insulté et que le roi allemand était venu en personne le saluer à son départ d'Ems. Alors Gambetta insiste, mais on lui rétorque que l'heure tourne, que le peuple attend et qu'il faut voter. En vérité, chacun trépigne. C'est ainsi qu'en dépit de toute logique, les crédits militaires sont votés à 245 voix, il n'y a que 10 contre et 5 abstentions. Même folie outre-Rhin, où le Reichstag voit une large majorité l'emporter et où tous rêvent de calmer cette France si arrogante. Le 19 juillet 1870, Napoléon III se résigne à déclarer la guerre à Guillaume Ier. Puis il écrit ces mots français.
Français, je vais me mettre à la tête de cette vaillante armée qu'anime l'amour du devoir et de la patrie. Elle sait ce qu'elle vaut, car elle a vu dans les quatre parties du monde la victoire s'attacher à ses pas. J'amène mon fils avec moi. Dieu bénisse nos efforts. Un grand peuple qui défend une cause juste est invincible.
Elle sait ce qu'elle vaut ? Pas vraiment. 220 000 fantassins, 25 000 cavaliers, mais rien qui ne fonctionne normalement. Dès les premiers jours, l'armée française est totalement désorganisée. Une stratégie erratique et des soldats apeurés, deux fois moins nombreux que le camp d'en face. Le 18 août, au plus fort de la guerre, la bataille de Gravelotte, près de Metz, voit 40 000 hommes trouver la mort. Oui, ça tombe comme à Gravelotte, ça vient de là. Dans la région, on s'en souvient encore. Et que fait Napoléon III ? Plus grand-chose. On l'entend gémir et parfois même pleurer. La suite, c'est encore Nicolas Chaudin qui la raconte dans son livre « L'été en enfer ».
Cela fait plus d'un mois qu'on le traîne sur les lignes de front, battant la retraite de Metz à Verdun et de Mourmelon à Tourterons. Dépossédé du pouvoir par la régente qui lui interdit de revenir aux Tuileries et lui suggère de mourir sur le champ, entouré de généraux incompétents, ignoré ou raillé par ses propres soldats, Napoléon III n'a plus rien d'un souverain. Même sous le soleil d'août, il est couvert de châles. Ses culottes sont bourrées de serviettes éponges. Il ne tremble pas de lâcheté. Il grelotte de froid.
Un vrai chemin de croix. À ce stade, l'idéal serait d'échapper au déshonneur en mourant sur le champ de bataille. Mais rien n'y fait. Chaque jour, Napoléon III ouvre les yeux sur des paysages dévastés. Et chaque jour, on lui apprend une nouvelle défaite. Fessenburg, Châlons, Nancy, Metz. Comment est-ce possible ? Son monde déraille jusqu'au désastre de Sedan, qui sonne le glas. Le 1er septembre 1870, en début d'après-midi, Napoléon III est fait prisonnier. Ça n'était pas arrivé depuis François Ier, capturé à Pavie en 1525, sur ordre de Charles Quint, encore lui. La mort dans l'âme, l'empereur français écrit à Guillaume Ier. Monsieur mon frère, n'ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. Voilà, la victoire allemande est scellée, le second empire disloqué. Bismarck peut se réjouir, son plan a plus que bien fonctionné. Quelques mois plus tard, le 18 janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles devant une France humiliée. Cette proclamation marque l'apogée de Bismarck. Mais le sait-il, lui qui parade ce jour-là dans son uniforme blanc ? Sait-il que sa victoire porte en elle les germes d'autres drames à venir avec l'Allemagne ? Désir de revanche, nationalisme toxique, ingrédients principaux des deux guerres mondiales à venir.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la dépêche d'Ems, une fake news tragique. Notre invité Xavier Mauduby, bonjour.
Bonjour Fabrice Drouel.
Nos auditeurs vous connaissent bien puisque vous produisez depuis 2019 l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture. Vous êtes spécialiste du Second Empire. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur Napoléon III, dont Le ministère du faste chez Fayard en 2016 ou encore Napoléon III paru aux presses universitaires de France en 2023. Et puis celui-là, moi je l'adore celui-là. Flamboyant Second Empire et la France entra dans la modernité. Écrit par vous-même, Xavier Mauduby et Corinne Ergas. Alors c'est intéressant parce que on a une image souvent faussée de Napoléon III. C'est dû en partie, alors on se dit c'est un ersatz du vrai Napoléon, c'est enfin un raccourci. C'est dû aussi à tout ce qu'a fait Victor Hugo, l'opposant Napoléon le Petit. Donc on se dit, bah, il était petit. C'est pas ça, Napoléon c'est bien plus complexe et bien plus intéressant.
Ah oui, c'est un personnage extraordinaire, Napoléon III, pour comprendre le 19e siècle et pour comprendre le nôtre. Et Fabrice, c'est ce que vous avez vraiment montré, comment cette période-là est en écho à ce que nous sommes. Si on veut le dire simplement, au moment du Second Empire, donc... En prenant des dates 1852-1870, mais on pourrait ajouter la présidence de la République avant, parce que Napoléon III, avant d'être Napoléon III, est le premier président de notre histoire. Donc 1848-1870, à ce moment-là, Napoléon Ier, l'oncle, c'est déjà un personnage de légende, c'est déjà un personnage lointain. Or, Napoléon III, lui, réussit à faire quelque chose de considérable, c'est-à-dire qu'il met en place un empire, donc un système dynastique, héréditaire, mais qui l'adapte à l'ère du temps. Mmh. C'est ce qu'on appelle le césarisme. Ce premier président de la République de notre histoire, en 1848, fait un coup d'État, il devient empereur, et ça dure 18 ans, ça fonctionne. Et la dépêche d'Ems nous le montre bien, ça s'effondre, non pas en raison de problèmes intérieurs, mais de problèmes extérieurs. Donc c'est lui la menace pour la République.
Ouais, et ça veut dire, d'ailleurs, il arrive à être président de la République sur son nom, hein, Napoléon, parce que le sentiment bonapartiste est encore là. Et effectivement, ça fonctionne. Et quand on parle de droite bonapartiste, vous savez, selon René Raymond, vous avez la droite nationale, la droite bonapartiste, la droite orléaniste. On pense que c'est une référence à Napoléon Ier. Apparemment, c'est une référence à Napoléon III.
Oui, parce que le bonapartisme n'existe pas sous Napoléon Ier. Napoléon Ier ne fonctionne qu'avec un personnage qui est lui-même. Le premier empire ne se comprend qu'avec Napoléon Ier. Une fois que Napoléon Ier est renversé, qu'il chute, c'est Waterloo, c'est 1815, exilé sur l'île d'Elbe, se développe en France un sentiment politique constitué de souvenirs, de nostalgie, d'une relecture de ce que Napoléon Ier a fait, et notamment la relecture par Napoléon Ier lui-même, c'est ce qu'il a dicté lors de son exil à Sainte-Hélène, le mémorial de Sainte-Hélène. Et là, d'un seul coup, Napoléon Ier se présente comme défenseur des droits des peuples. Non mais défenseur des droits des peuples, il mettait ses frères rois ici et là, il n'en avait rien à faire. Mais il comprend que l'ère du temps est là-dedans. Les mouvements politiques ont changé. Donc lui, il se présente défenseur. Et le bonapartisme reprend cette idée, défendre les libertés. Napoléon III, avant d'être Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un jeune homme qui traverse le siècle baigné de ces idées-là. Et il suit ce mouvement, le bonapartisme. Et quand en 1848, sous la République, il y a une élection présidentielle, ce mouvement bonapartiste est très structuré, beaucoup de propagande. Et vous avez raison Fabrice, hein. C'est sûr que quand on lit les noms des candidats, alors vous avez Lamartine, le poète, on se dit celui-là je le connais pas, bon, Cavaignac, pas trop qui c'est, et Louis-Napoléon Bonaparte. Effet générationnel, hein. Ça évoque l'enfance, ça évoque la grandeur de la France.
Dites-moi, Victor Hugo aurait bien collaboré à ce pouvoir, hein.
Ah oui.
Au début.
Victor Hugo c'est un personnage complexe, parce que jeune homme il est foncièrement royaliste. Enfin, il est quand même fils d'un général de l'Empire. Mais après, il évolue. Il se rallie à une forme de monarchie un peu plus douce. L'orléanisme, il n'en est pas loin. Et puis, au moment de la République, bah oui, il est républicain. Mais ce Louis-Napoléon Bonaparte, avec ces idées qui paraissent neuves, cette attention portée aux plus faibles. Louis-Napoléon Bonaparte a écrit « L'extinction du paupérisme », « La disparition de la pauvreté ». Voilà ce qu'il propose. Donc, c'est séduisant. Et c'est vrai que Victor Hugo aurait imaginé sans doute un poste ministériel. Il a été déçu. Ça explique peut-être une certaine rancœur.
Alors, en histoire, comparaison n'est pas raison, mais je trouve qu'il y a une attitude presque gaullienne chez Napoléon III dans le rapport qu'il entretient avec le peuple, au-dessus des partis.
Ouais, c'est très juste, hein. C'est très juste. C'est une analyse qu'on peut avoir ici d'un homme qui est à l'écoute de son temps. Et il y a très peu de souverains au même moment, donc au 19e siècle, qui sont aussi préoccupé des considérations économiques. C'est l'industrialisation, le monde change et donc la société change avec l'apparition de ce monde ouvrier qui est une nouveauté avec ses déplacements de population, c'est l'exode rural. On quitte la ferme et puis on arrive en ville. Et lui, il est très soucieux de cela. Et le pouvoir bonapartiste se distingue d'autres formes de pouvoir en insistant sur le soutien des élites traditionnelles, les élites qu'on attend de la noblesse, les nouvelles élites, la finance, la banque, mais aussi le soutien populaire. Et ça donne cette politique...
Surtout le peuple,
mais c'est
sûr.
Ça, c'est ratissé large.
Bon, alors, on vit une période en France de 1860 à 1870 qui est faste, hein, vraiment, sur l'architecture, la culture, la politique, les nouvelles tendances. C'est une France heureuse. Et voilà qu'une guerre vient gâcher ça, enfin, on ne comprend rien.
Non, c'est très important là ce que vous dites, parce que pendant 18 ans, le choix de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, c'est de déployer le faste à l'extrême. Vrai message politique du faste, hein. Quand vous faites la fête, quand il y a des bijoux partout, sans imaginer qu'un jour ils seront volés au musée du Louvre, eh bien... Il y a un message qui est envoyé à la population française, c'est de dire, regardez, le pays prospère. Parce qu'on fait pas la fête quand il y a de la misère.
Bien sûr.
Et un message envoyé au monde, regardez, nous sommes confiants, nous nous permettons de faire la fête. Donc, il n'y a pas la guerre. 18 ans de cette image-là, avec un régime qui, en plus, et c'est très rare dans l'histoire, commence de manière autoritaire et va de plus en plus vers le libéralisme. La plupart des régimes
c'est
autoritaires,
contraire, c'est contraire.
Voilà, ça se durcit. Et là, à la fin du règne, nous sommes sur une monarchie, on pourrait dire parlementaire, comparable à ce qui se passe au Royaume-Uni. Oui. Pour le dire simplement, Napoléon III, il choisit plus ses ministres à la fin. Il regarde la majorité à l'Assemblée. Ce sont des républicains, Émile Ollivier, républicains ralliés. Et donc, il les choisit là. Cette évolution est incroyable et cette fête-là prend fin brutalement à l'été 1870.
Et on va y revenir.
France Inter. Sensible.
Xavier Mauduit, nous sommes dans une affaire de gâchis, hein, parce qu'on a une France qui va bien, et puis on déclare une guerre erratique, inique même. Bismarck la veut, cette guerre. Une certaine partie de l'élite française la veut aussi. Pourquoi Bismarck la veut-elle ?
Bismarck a besoin d'un ennemi commun à tous les États allemands. L'Allemagne est alors divisée, c'est un... puzzle, c'est une mosaïque, avec plein d'États qui ne sont pas faits pour s'entendre, au sens où, au sud, vous avez la Bavière, catholique, qui regarde la Prusse, et puis la Prusse qui prend de plus en plus de place, protestante. C'est très difficile d'unir cela. Alors que les Italiens, dans ces années, ont réussi à constituer leur unité. 1859, c'est la campagne d'Italie, soutenue par Napoléon III.
Absolument.
Et on a là, pour Bismarck, l'idée que pour obtenir l'unité, eh bien, on va se trouver, c'est un principe humain très simple, un ennemi commun. Cette recherche, c'est ce que vous avez expliqué, Fabrice. C'est la France. La France est parfaite pour être l'ennemi commun. Et c'est vrai que la place de la France en Europe, à ce moment-là, pose question. En 1815, à la défaite de Napoléon Ier, le traité de Vienne avait redessiné la carte de l'Europe. Et la France, durant tout son 19e siècle, a voulu corriger ça. Et c'est vrai qu'avec Napoléon III, la France retrouve cette place prépondérante en Europe. Napoléon III, c'est l'arbitre de ces questions européennes. Et l'Allemagne se dit, voilà, on va attaquer ici et ça fonctionne. C'est ça qui est absolument sensationnel. Ne pas croire que la dépêche d'Ems, c'est un élément unique. On le sent bien, c'est un travail préparatoire de Bismarck sur le temps long, sur des alliances constituées avec l'Autriche-Hongrie, avec la Russie. Il est extrêmement fort et ça fonctionne. Et c'est là où l'on se demande quelle est la part du génie de Bismarck et de l'aveuglement français.
Alors justement, pourquoi une certaine partie de l'élite française, non pas Adolphe Thiers, hein, qui est très lucide sur le coup, veut la guerre ?
Alors ici, il y a sans doute une confiance absolue de l'armée française en elle-même. Et ça, c'est un piège. Vous savez, tous nos militaires ont fait leur carrière en Afrique. Hein. C'est la conquête de l'Algérie. On parle d'ailleurs des Africains quand on parle de ces militaires. Et donc, ils connaissent cette guerre-là, cette guerre coloniale qui a été affreuse, monstrueuse. Sauf que ils ne connaissent pas la guerre telle qu'elle peut se constituer en Europe face à une armée prussienne qui bénéficie de l'industrialisation. Et pourtant, en 1866, quand l'Allemagne, la Prusse, attaque l'Autriche, eh bien, il y a des émissaires français. Et au plus près de Napoléon III, un officier d'ordonnance, Stoffel, qui va voir, commence à faire des rapports en disant « attention, méfiance, il y a tant de signaux. Vous savez, le piège en histoire, mais vous le savez très bien, c'est la téléologie. C'est-à-dire, j'explique ce qui s'est passé parce que je connais la fin. J'explique parce que je sais que Napoléon III va perdre. Si Napoléon III avait gagné, on aurait dit... Nous étions très bien préparés. Or, là, effectivement, il y avait tous les signaux de ceux qui voulaient la guerre, de ceux qui disaient « attention, nous ne sommes pas prêts », ce ne sont pas les bons qui ont été écoutés. La France, pourtant, avait donné tant de signes de puissance, et c'est ça qui nous a perdu la confiance, la campagne d'Italie en 1859, une réussite, et puis l'expédition du Mexique en 1867 qui a été un fiasco, elle est complètement oubliée.
Dites-moi, parmi les va-t-en-guerre, il y a Eugénie dans une espèce d'approche viriliste de son mari.
Oui, elle est complexe. Eugénie, c'est un des plus beaux personnages de cette histoire, au sens où l'impératrice Eugénie était régente trois fois. Elle a été régente en 1859, quand Napoléon III est en campagne en Italie, en 1865, quand il est en visite en Algérie, et donc en 1870, quand il part au combat. C'est-à-dire que l'impératrice Eugénie est la dernière femme qui a régné, qui a gouverné la France en tant que chef d'État. Elle était régente. Personnage complexe, parce que oui, effectivement, elle veut la guerre. On peut nuancer sa bigoterie. C'est une femme croyante, comme on croit en son temps.
Elle veut la guerre et elle veut surtout que Napoléon III monte sur son cheval, y aille.
Et elle veut qu'il y aille. Elle est en écho ici à l'ensemble de ce personnel que vous avez décrit, qu'il s'agisse de Gramont, qu'il s'agisse de Leboeuf, le maréchal Leboeuf. Ils veulent la guerre. Et puis, il n'y a pas qu'eux, les républicains aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voix forte qui dit « nous ne voulons pas la guerre ». Pourquoi les républicains ? Question complexe, Alors, on peut imaginer même que, pour certains, ce sera peut-être l'occasion de fragiliser l'Empire et de le renverser. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. Eugénie a souffert d'une légende noire, peut-être pire que celle de son mari, l'empereur Napoléon III, parce que à la légende noire associée au régime impérial s'ajoute une légende faite de misogynie. L'influence de l'impératrice, en tout cas en politique, n'est pas à nier, parce que c'est une femme qui a une vraie conscience politique. La volonté de l'impératrice de conduire à la guerre qui aurait convaincu Napoléon III ne suffit pas. C'est-à-dire que l'empereur lui-même, même s'il était très malade, a accompagné ce mouvement-là.
Intéressant ce que vous disiez, les républicains, parmi les républicains, il y a des va-t-en-guerre parce qu'ils se disent, si on perd la guerre, l'empire va tomber. C'est ce qui s'est passé, puisque après Sedan, on a eu la formation de la Troisième République, dont Adolphe Thiers, dont on parlait tout à l'heure, a été le premier président.
Ben oui, c'est ça. Ça se joue en très peu de temps, tout cela. Le 2 septembre 1870, Napoléon III est fait prisonnier. Le 4 septembre, la République est proclamée, la Troisième République, d'où la station de RER à Paris du 4 septembre. Voilà, c'est cette date-là de la proclamation de la République. Mais dans ce temps-là, nous avons ici tant de choix possibles et... Quand vous évoquiez la dépêche d'Esme, on est vraiment, Ems, on est au début du mois de juillet 1870. La défaite, c'est début septembre. Ça va à une vitesse
éclair.
C'est-à-dire que la France a à peine le temps de réfléchir à ce qui lui arrive. Et la certitude d'avoir une armée puissante fait que tout cet aveuglement a conduit au désastre. Et ce désastre, il a été terrible. Terrible parce que si la République est proclamée, la République poursuit la guerre. La défaite et la signature de la fin de cette guerre en janvier 1871, c'est par la République.
Oui. Et à une France amputée de deux régions.
Ben oui, l'Alsace-Lorraine,
l'Alsace-Moselle.
Ah bon. Oui.
Alors, je reviens sur la maladie de Napoléon III. Elle est déterminante dans cette histoire ou c'est un élément parmi d'autres ?
Je pense qu'elle est déterminante. Elle est déterminante parce que Napoléon III, vous savez, on disait qu'il urinait du sang. Tellement il avait la vessie abîmée, il était sous traitement, le laudanum, en fait, il n'avait plus tous ses esprits. Et puis, il y a dans cette histoire une portée dynastique. Il y a le prince impérial qui est né en 1856. Ce jeune prince impérial, c'est lui qui est appelé à prendre la relève. Et d'ailleurs, quand il annonce qu'il part au combat, il dit « le prince, le jeune prince m'accompagne, mon fils m'accompagne ». Et d'ailleurs, ici, vous avez un renversement d'image considérable. C'est-à-dire que Napoléon III, au combat, écrit un télégramme à l'impératrice, publié dans la presse, vous voyez la volonté du pouvoir, où il dit « une balle est arrivée à quelques pas du jeune prince et il n'a pas bougé ». C'est formidable pour montrer sa fierté, sauf que les républicains s'en saisissent et dès lors le jeune prince est surnommé « l'enfant de la balle ».
Ah d'accord. Alors la guerre enclenchée, Napoléon III devient presque christique, comme lorsque le Christ se rend à Canossa, en quelque sorte. On va écouter sur ce point l'historien Pierre Mulza, ici en 2009, dans l'émission « 2000 ans d'histoire ».
Alors l'empereur, il faut en parler. Ce qu'il subsiste de l'empereur, car cet homme est malade, est très gravement malade. Il a là, ce qu'on appelle à l'époque la maladie de la pierre, c'est un calcul dans la vessie. Il faut le hisser sur son cheval, il faut lui mettre des couches. Bon, mais Napoléon III est au bout du rouleau. Vous savez, à Sedan, pendant la bataille de Sedan, c'est Dien Bien Phu. Une cuvette avec des collines. Et là-dedans, il y a 60 000 hommes ou 80 000 hommes qui sont encerclés. Il sait qu'il va devoir capituler. Alors, il cherche la mort. Il fait le tour du champ de bataille, il cherche la mort. Il y a un médecin qui le suit, qui dit qu'il était ce personnage qui attend qu'un obus le fauche. Donc voilà, il y a un empereur qui est complètement au bout du rouleau. Et ce n'est pas un mince facteur d'explication.
Xavier Mauduit, Sedan, un autre Dien Bien Phu ?
Oui, on peut vraiment le dire comme ça. Et d'ailleurs, Sedan est resté dans les esprits comme une défaite incroyable. Vous savez, dans la lecture qui a longtemps été faite du parallèle entre Napoléon Ier et Napoléon III, d'un point de vue de propagande, on avait l'idée que à chaque fois, on a un coup d'État. Le 18 Brumaire pour Napoléon Ier, le 2 décembre 1851 pour Napoléon III. Tous les deux ont un enfant qui naît pendant le règne. On met plein de parallèles. Et puis, à la fin, nous arrivons à la bataille de Waterloo pour Napoléon Ier et Sedan pour Napoléon III. Ouais. Sauf que ici, c'est un renversement global. C'est-à-dire que Waterloo, c'est encore presque considéré comme une victoire française, tellement la bataille est célèbre. Sedan, c'est la défaite ultime.
Et après, la France est occupée. Oui. Première occupation prussienne, allemande, et si vous voulez vous replonger dans l'ambiance de ce temps-là, il faut relire Boule de Suif,
oui,
Thomas Passant, par exemple.
Et on peut relire, effectivement, même chez Zola, on va retrouver des pages incroyables, mais c'est vrai que Maupassant, c'est exceptionnel pour cela.
Avec les profiteurs, les profiteurs d'occupation, voilà, c'est classique.
Et l'occupation et des indemnités gigantesques en francs or payé par la France. Et c'est important de le dire parce que là aussi, la France a été jusqu'au bout du règlement de toutes ces mesures de guerre.
Alors, 1870, mais aussi 14-18, 39-45, peut-on dire que la dépêche d'Ems donne lieu à trois actes d'une même trilogie, guerre franco-allemande?
Oui, il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans cette histoire avec le traumatisme absolu de la défaite, c'est déjà un traumatisme, la perte de l'Alsace-Lorraine, Alsace-Moselle. Sous la République, il y a la Commune, mais tout ça est lu comme une continuité. Et la Commune insurrectionnelle de Paris, c'est un traumatisme qui crée au 19e siècle et au début du 20e siècle cette idée de revanche, enfin cette nostalgie. On connaît bien la Première Guerre mondiale et on voit comment tout cela est relié. On sait combien la Première Guerre mondiale est reliée à la Seconde. Mais vous savez, Fabrice, il y a quelque chose d'étonnant et c'est là où l'impératrice Eugénie joue un rôle dans cette histoire. Parce qu'en 1918, après la Première Guerre mondiale, l'Alsace-Lorraine, que va-t-elle devenir ? Le président des États-Unis Wilson, va-t-elle la redonner à la France ? Et là, arrive la vieille impératrice. Elle est toute vieille, elle meurt en 1920, elle sort une lettre. Ouais. Une lettre que lui a écrite à ce moment-là Guillaume Ier, le roi de Prusse, juste après la défaite, où Guillaume Ier dit non, l'Alsace-Lorraine, l'Alsace-Moselle, c'est juste pour faire un glacis. On n'entend pas garder ces territoires. Et en 1918, elle sort cette lettre. C'est pas déterminant, ça rentre dans le dossier, mais c'est cette continuité qui fait qu'à travers les régimes, il y a ce lien qui fait notre histoire, c'est l'histoire de France.
Oh, quelle belle fin. Ce sera le mot de la fin, justement, Xavier Mauduit. Merci, Xavier.
Merci vivement, Fabrice.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Dépêche d'Ems, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sybille Clamins.